BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a cette grande question: qui croit encore la France capable de ramener ses déficits, vous savez, sous la fameuse barre des 3% d'ici 2027? Pas grand monde apparemment. D'ailleurs, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, s'est fâché clairement tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur le sujet. On va en parler dans un instant. Et puis on en parlera dans 10 minutes avec Nicolas Bavrez, économiste, avocat, historien. Il sera l'invité d'Élie Chevrillon dans la grande interview sur BFM Business. Bruno Le Maire, lui, pendant ce temps, est à Washington. Pour soumettre à ses pairs une idée, pour trouver de l'argent, justement, vous savez qu'il cultive cette grande idée de taxer, lancer une imposition minimale des milliardaires à travers le monde. On vous racontera ça. On parlera tout ça, bien sûr, avec nos experts qui arrivent à 18h30. Avec eux, on parlera aussi de Joe Biden qui relance subitement la campagne en tapant sur les Chinois. Il l'a fait du côté de la Pennsylvanie, cette bonne guerre. Et puis des Jeux Olympiques, on est à 100 jours. On demandera à nos experts comment ils sentent le truc, entre guillemets. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, grande question que je pose, que je repose: qui croit encore la France capable de ramener ses déficits sous la barre des 3%? Le gouvernement a présenté, en tout cas ce matin, au Conseil des ministres, sa nouvelle trajectoire budgétaire, comme on dit. Bonsoir Valentin Grille.
Bonsoir Guillaume.
Le problème, c'est que le très sérieux Haut Conseil des finances publiques l'a dit aujourd'hui, lui, il n'y croit pas du tout, Valentin.
Et non, on peut le dire, hein, parce que l'éléphant dans la pièce, c'est les objectifs de déficit public. Le gouvernement veut passer de 5,5% en 2023 à 2,9% en 2027. Pierre Moscovici, donc le premier président du Haut Conseil, part d'un effort budgétaire jamais vu, d'un effort incroyablement difficile. 27 milliards d'économies à faire dès l'année prochaine, et ce n'est pas compatible avec la croissance. Je vous propose qu'on l'écoute.
Compte tenu de ce qu'on nous a donné, soit on maintient les prévisions de croissance, et donc l'ambition de croissance, et à ce moment-là, on risque fort de ne pas atterrir sur 3%, soit on veut atterrir à tout prix sur 3%, et à ce moment-là, la croissance sera sans doute moindre, ce qui exigera des efforts en dépenses encore plus considérables que ceux qui sont faits.
Alors, le gouvernement est-il malhonnête? Pas forcément. Par exemple, il a été redit que les prévisions sont plus dures parce que l'État redistribue plus de TVA, on le sait, aux collectivités notamment, du fait de la compensation de la fin de la taxe d'habitation. Et donc, il s'appuie sur son budget, sur des impôts moins certains, comme l'impôt sur les sociétés, par exemple. Mais il s'interroge quand même, Pierre Moscovici, sur les recettes. Faut-il enlever plus et mieux? Peut-être. Il a évoqué le manque d'efficacité des taxes sur les énergéticiens, notamment arrivées trop tard, en pleine désinflation. Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics, a répondu. Il est encore en train de se défendre devant la commission des finances en affirmant les économies réalisées, la proximité de ses prévisions avec celles de la Banque de France, de la Commission européenne par exemple, et puis en affirmant encore sa stratégie sur les recettes. On ne lèvera pas de nouvel impôt de façon importante, en tout cas sans impulsion venue du Parlement, cette fois pas de l'exécutif. Ouais.
Merci beaucoup Valentin. Valentin Gris, on parlera bien sûr de ces prévisions avec nos experts, où on leur demandera si eux pensent que tout cela est tenable, bien évidemment. 18h02 sur BFM Business, on a une info entreprise qui vient nous parvenir et dont on voulait dire un mot. Bonsoir Mathieu Pechberti. Parce qu'on apprend ce soir qu'il va y avoir du changement chez Publicis. En gros, si on se résume, Arthur Sadoun va prendre les pleins pouvoirs et Maurice Lévy va prendre un petit peu de retrait, c'est ça Mathieu finalement, hein?
Oui, exactement, c'est tombé il y a quelques minutes concernant la gouvernance de Publicis. Alors Maurice Lévy, figure évidemment emblématique depuis 50 ans de Publicis, quitte ses fonctions de président, hein, il était président du conseil de surveillance de Publicis, et va confier les rênes, en tout cas officielles, de Publicis à Arthur Sadoun, qui était aujourd'hui président du directoire, après l'Assemblée Générale qui aura lieu fin mai. Arthur Sadoun va donc devenir PDG de Publicis. Il va y avoir un changement de structure juridique. Mais Maurice Lévy ne s'en va pas totalement, puisqu'il va rester président d'honneur de Publicis, qu'il sera invité aux réunions du conseil d'administration. Oui. Donc il sera quand même toujours là. Et Arthur Sadoun, dans le communiqué du groupe, dit d'ailleurs qu'il s'agira notamment de maintenir le tandem qu'il a formé avec Maurice Lévy depuis 2017. Donc vous voyez bien que même s'il va devenir effectivement PDG, il dirige le groupe depuis maintenant 7 ans, il dit qu'il faut effectivement maintenir un tandem et que Maurice Lévy prend du recul. Je rappelle qu'il a 82 ans, mais qu'il est quand même toujours un peu là. Maurice Lévy, il est en figure emblématique du groupe Publicis, porte-voix quelque part d'Elisabeth Badinter, première actionnaire, et c'est aussi pour ça que Maurice Lévy ne s'en va pas totalement, car Le groupe Publicis est un groupe quasiment opéable. Elisabeth Banater a encore 6,5% du capital de Publicis. Vous savez que c'est un groupe qui a souvent fait l'objet de rumeurs, oui, notamment d'offensives de Vincent Bolloré qui détient Havas. Et donc c'est aussi pour ça que Maurice Lévy reste quelque part un petit peu sur un strapontin, mais encore un peu là chez Publicis.
Il est toujours là et bien là, Maurice Lévy. Merci, oui, beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, Bruno Le Maire, lui, est à Washington. Il est allé sonder ses homologues du G7 et du G20 sur un bon moyen de récupérer un petit peu d'argent, puisqu'on en parle à l'instant. Il a toujours cette idée d'instaurer une taxe minimale sur les grandes fortunes. Écoutez le ministre.
Nous allons lancer une initiative sur la fiscalité minimale des personnes les plus fortunées. Qui va reposer sur de la transparence, d'abord qu'on sache exactement quel est l'état des lieux. En deuxième lieu, sur un échange d'informations. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange d'informations entre les systèmes fiscaux de différentes nations de la planète sur la réalité de cette taxation. Et ensuite, éviter les mauvaises pratiques en la matière.
Voilà, Bruno Le Maire, tout à l'heure du côté de Washington. Aux États-Unis, justement, ça sent la campagne électorale à plein nez. Joe Biden a déclaré tout à l'heure, écoutez bien, qu'il voulait tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de Chine. Il l'a dit lors d'un déplacement en Pennsylvanie au cours duquel il doit se rendre au siège du syndicat des métallurgistes. C'est de bonne guerre. À l'heure actuelle, vous savez que ces droits de douane sont situés à 7,5%. 18h05 en France. Ce sont des chiffres assez intéressants que nous a donné ce matin Malakoff Humanis. Ils nous disent que globalement, l'absentéisme pour arrêt maladie a baissé en 2023. Globalement, ça baisse, mais au niveau des petites entreprises, ça continue de grimper année après année. Astrée Olivier.
Ce sont même les TPE qui enregistrent la plus forte hausse. Plus 10 points depuis 2021 de salariés arrêtés au moins une fois pendant l'année. A contrario, les entreprises de plus de 1000 salariés affichent la plus forte baisse, moins 16 points sur la même période. Ce grand écart entre petites et grandes entreprises qui se confirme depuis 3 ans peut d'abord s'expliquer par une baisse de l'engagement des salariés dans les petites entreprises, renforcée par l'arrivée de jeunes plus enclins à respecter les arrêts maladie prescrits. Ensuite, le recours au télétravail est un facteur de bien-être pour les salariés et est davantage favorisé dans les grandes structures, selon l'étude. Enfin, les actions de prévention sur les maladies professionnelles et risques psychosociaux existent dans près de la moitié des grandes entreprises et seulement une PME sur 8. Des dispositifs dont l'impact se mesure aujourd'hui puisque les troubles psychologiques sont en forte progression et représentent un quart des arrêts longue durée cette année.
Astrée Olivier, dans l'actualité des entreprises, Elon Musk ne lâche pas l'affaire, hein, vous savez, concernant sa rémunération chez Tesla. Vous en souvenez peut-être, en janvier, la justice avait annulé un plan de rémunération en actions qui devait s'élever à 56 milliards de dollars. Eh bien, le conseil d'administration de Tesla a fait savoir que ce plan sera de nouveau soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale du groupe Tesla. Ça sera en juin prochain. En France, on a appris le décès aujourd'hui du tout premier designer du TGV, Jacques Cooper. C'est Alstom qui l'a annoncé aujourd'hui. C'est lui, Jacques Cooper, qui avait imaginé la silhouette et le coloris orange du tout premier TGV qui avait fait son apparition. Les plus âgés s'en souviennent, Gare de Lyon à Paris en 1981. Et puis en France, le deal du jour, il est pour Vinci qui vient de racheter 50,01%. Donc la majorité des parts de l'aéroport d'Édimbourg, opération à 1,5 milliard d'euros. C'est la troisième implantation de Vinci du côté de Royaume-Uni. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir depuis Euronext à La Défense. On a repris un petit peu de terrain ce soir, Étienne, mais on est toujours au-dessus des 8000 points. Hein.
Oui, une hausse, mais pas suffisante pour retrouver les 8000 points. 7981 ce soir, c'est une hausse de 0,6%. Après, souvenez-vous, une baisse de 1,4% hier. Heureusement qu'LVMH était là aujourd'hui pour soutenir la tendance. Figurez-vous que le titre a gagné quasiment 5% en séance, avant finalement de clôturer en hausse de 2,8% au-delà des 800 euros, avec un trimestre qui n'est certes pas mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel non plus. Normalisation, mais néanmoins un groupe qui est confiant pour cette année. Ça plaît au marché. Dans le sillage, vous avez Hermès qui est proche de son record historique à 2342 euros. Et puis, à noter aujourd'hui, un titre qui dégringole en Europe et qui a pesé sur l'Eurostoxx 50. Et c'est ASML, hein, numéro 1 mondial dans les machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Le titre perd quasiment 6% ce soir à la clôture. Là aussi, vous avez une normalisation de la demande dans les semi-conducteurs. Le temps des pénuries est loin. Et vous avez un groupe qui a publié un bénéfice en dessous des attentes. Et donc, un CAC 40 qui clôture en hausse ce soir, mais légèrement sous les 8000 points. 7981 points, c'est donc une hausse de 0,6%.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street. On est à la mi-séance. Le Dow Jones qui perd 0,4%, 37 641 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui dévisse de 0,63%. On est à 15 766. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est Nicolas Bavrez, l'avocat historien et économiste, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. 2024, une année noire pour les finances publiques. Après l'année blanche, c'est donc une année noire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, auditionné devant la résidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Nicolas Bavrez, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, historien, avocat. Vous êtes essayiste au Point, au Figaro. Et vous, vous dites, en fait, cette situation sur la dette publique, c'est une situation qu'on n'a pas retrouvée avant l'ancien régime. Et on se souvient que l'ancien régime, après, il y a eu une révolution. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. On se souvient aussi que vous avez écrit les 30 piteux. C'était un peu votre fer de gloire. Votre fer de lance, j'allais dire. La France qui tombe aussi, vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez noir. Là, est-ce que vous avez des raisons d'être très noir sur l'économie française ? Le FMI, à l'instant, vient de dire qu'il ne croyait pas au fait que la France puisse réduire son déficit en dessous des 3% en 2027. Ça commence à faire pas mal, hein. Vous voyez, il y a Pierre Moscovici, le FMI, aujourd'hui était une journée un peu lourde pour la crédibilité financière de la France.
Alors, revenons à cette suite de questions. D'abord, le diagnostic, est-ce qu'il y a un vrai problème sur les finances publiques françaises ? La réponse est oui. Et contrairement à ce que dit le président de la République, c'est pas un problème de recettes, parce que les recettes, l'ensemble des recettes publiques, c'est 52% du PIB, c'est énorme. Et en réalité, il y a une tolérance des Français à l'impôt qui est même assez ahurissante. Mais il y a un énorme problème de dépenses, le niveau, 58% du PIB, et surtout l'inefficacité.
Parce qu'avec les 58%... On va revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous pensez à la crédibilité de ce que dit le ministre de l'économie et des finances, voire le président, vous venez de citer à l'instant.
Alors, la crédibilité, elle est forcément affectée pour plusieurs raisons. D'abord, l'un comme l'autre vont avoir à porter, j'allais dire, l'un comme l'autre sont les responsables de 1000 milliards d'euros de dette sur les 3100 milliards. Ouais. Ça va quand même être très difficile à porter. Ensuite, du côté du président, je rappelle que un des éléments qui font que les agences de notation considéraient plutôt positivement la dette française par rapport à ce qu'elle vaut vraiment, c'était justement la tolérance à l'impôt. Donc, que le président dise qu'il y a un problème majeur sur les recettes, je pense que c'est prendre un risque. Quant au ministre de l'économie, très clairement, il s'est lourdement trompé sur ses prévisions et il continue à afficher des prévisions qui ne sont pas réalistes. C'est vrai pour la croissance parce que le 1,4 était tout à fait...
De l'ambition pour la France, c'est ce qu'il a dit là à Washington tout à l'heure, avec les 1% de croissance.
Oui, mais aujourd'hui, si on reprend l'économie française dans les années des 30 glorieuses, il y avait un cercle magique entre la croissance, les gains de productivité, le plein emploi, l'amélioration des finances extérieures et puis l'amélioration des finances publiques. Là, on a un cercle infernal, c'est-à-dire qu'on a une croissance depuis 2019, la croissance complète, c'est 1,5%, c'est-à-dire c'est un pays qui croît de 0,4-0,5% par an. C'est ça la vérité. On a des gains de productivité. La productivité a baissé de 6% depuis 2019. Le chômage va remonter au-dessus de 8%. On a un déficit commercial structurel de 200 milliards. Et on a ces finances publiques avec un déficit de 5,5%. Mais ce qui est important derrière, c'est le déficit structurel. Le déficit structurel, il est autour de 4,5%, dont 2,5% de déficit purement social auquel personne ne s'attaque. Donc, voilà le problème. Et ensuite, d'un point de vue vue économique, les choses sont claires, c'est-à-dire que pour un pays, la dette devient insoutenable quand les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance nominale, donc croissance en volume plus inflation. Les taux d'intérêt de la BCE sont à 4%, l'inflation est un peu supérieure à 2% et la croissance est autour de 0,7%. Donc on entre dans le moment où ça va être compliqué. Donc ce que traduit le FMI, c'est ça, et il a raison. Et si vous voulez, la vraie inquiétude face à ça, c'est la situation de déni des responsables. C'est-à-dire que là, les signaux d'alerte, on peut dire que des gens comme moi se sont époumonés en pure perte pendant des années, mais cette fois-ci, la crise, elle est vraiment là, et le risque de choc est également là. Mais en même temps,
pardonnez-moi Nicolas Barbès, mais ça fait quand même quelques temps que vous le dites, alors c'est là où on se dit qu'on arrive vraiment dans une phase, je me fais l'avocat du diable, c'est que il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va bousculer beaucoup de choses, qui va provoquer de la croissance, certes des pertes d'emplois, mais quand même qui va redonner un peu, peut-être un souffle, notamment à l'industrie française. Donc vous voyez, il y a des facteurs quand même assez positif.
Oui, mais c'est là où il y a un problème sur la nature de la dépense. Il y a une dette énorme aux États-Unis, mais d'abord ils ont le dollar, et ensuite eux, ils investissent précisément dans la technologie, dans l'armement et dans l'IA. Si la France était un pays leader de l'intelligence artificielle, ça se saurait. Et donc aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a d'énormes besoins vieillissement, réindustrialisation, réarmement, révolution numérique, transition écologique, mais l'argent, on l'a pas du tout mis là-dedans. Si vous voulez, on a mis un argent qu'on n'avait pas dans des dépenses qui ne rapportent rien, mais même qui créent des dépenses supplémentaires, parce que on a installé toute une partie de la population. D'abord, on a paupérisé la population, et il y a toute une partie de la population qui dépend maintenant de manière critique des transferts sociaux.
Oui. C'est ça, quand vous dites on a dilapidé en fait l'argent qui n'a rien, et de l'argent qui n'a rien
rapporté. On a dilapidé un argent qu'on n'avait pas.
Mais en même temps, c'est ce que dit Patrick Artus, qui sera bientôt mon invité, en disant mais après tout, cette dette, elle est complètement soutenable, si vous voulez, qu'en plus les marchés s'arrachent là, de la dette française. Avec la dette allemande, il y a quand même une soutenabilité européenne assez forte. Donc, c'est pas un problème. Regardez les États-Unis, le déficit, il est quatre fois plus grand que le nôtre.
Oui, alors, les États-Unis sont quand même un cas tout à fait à part, parce qu'il y a le dollar, parce que c'est un pays refuge, parce que ça... Je rappelle quand même que près de chez nous, on a eu deux exemples. Hein. L'Italie, qui est aussi un pays systémique pour la zone euro et qui a eu une crise très très sérieuse en 2011. Plus récemment, alors, hors zone euro, c'est vrai.
Il y a eu l'Espagne, mais qui s'en sort.
Le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni qui est toujours sous la surveillance des marchés. L'Espagne s'en sort parce que l'Espagne diminue sa dette. Et regardez un pays comme le Portugal, il est passé de 133% du PIB de dette publique à moins de 100% en l'espace de 10 ans. Et le Portugal est en excédent cette année, il est en excédent budgétaire de 1,2% en 2023. Mais parce qu'ils ont fait des politiques de changement de modèle et des politiques, mais ça montre qu'en Europe, on peut aller bien. Et c'est vrai aussi d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord. Mais la France est maintenant un grand malade. Et surtout, un grand malade qui refuse de se soigner. D'une certaine manière, l'Italie est dans une meilleure position du point de vue, par exemple, parce qu'elle est en excédent primaire. Donc, elle a plus de capacité à soutenir sa dette. Ouais. Nous, on est en déficit primaire de 3,8%. Pour que la dette soit soutenable, il faudrait être à 0,5%. Donc, ça veut quand même dire que, contrairement à tout ce qui est raconté par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est que si on veut assurer la soutenabilité de la dette, il faut baisser le déficit de 1% par an dans les années qui viennent.
Oui, c'est là où ils disent qu'ils vont le faire, mais c'est là où effectivement la crédibilité est mise en doute par Pierre Moscovici, par le FMI. Vous avez écrit un papier qui est très intéressant dans le Figaro, hein, je crois, où vous rappeliez que la situation qu'on connaît aujourd'hui, enfin la situation des finances publiques, est sans précédent depuis l'Ancien Régime. Et puis il faut savoir qu'après l'Ancien Régime, il y a donc eu cette révolution. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Parce que une situation sans précédent, bon, d'accord, la France était en déficit depuis 1974, mais avant, les finances publiques, elles étaient équilibrées.
Ah non, elle n'était pas équilibrée.
Il y avait un déficit zéro, enfin, il n'y avait pas de déficit.
Non, mais il faut se souvenir que le XXe siècle, c'est quand même deux guerres mondiales, et donc les deux guerres ont correspondu à des périodes d'explosion des dépenses et des déficits. La grande période de rétablissement des finances publiques, c'est la période gaullienne.
Oui.
Le général de Gaulle a désendetté, a coupé la dette extérieure, rembourser l'intégralité de la dette extérieure en 4 ans. Et ensuite, la dette publique sous Georges Pompidou était à 10%. À la fin, en 1981, elle est de 20% du PIB. Et on est passé à 58% du PIB en 2000. Et donc à 110% du PIB aujourd'hui. Et surtout, ce que vous avez rappelé, c'est que par rapport aux autres pays développés, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres pays et de grands pays qui sont en déficit, mais nous sommes les seuls à être en déficit de manière constante depuis un demi-siècle. Le dernier excédent, c'est Georges Pompidou, 1973, plus 0,2% du PIB. Tous les autres ont eu des hauts et des bas, mais sont venus en excédent à un moment donné ou à un autre. Chez nous, ça n'est absolument pas le cas.
Oui, mais c'est quand même une longue histoire française, hein, ça fait partie un peu de notre culture. Parce que vous dites qu'il faut remonter quasiment à l'ancien régime. Hein, donc
Oui, mais c'est, à la fois, il y a eu les deux aspects. Il y a eu la dette et puis le dysfonctionnement aigu du système fiscal, ouais, qui sont des raisons majeures de la Révolution française. Mais à l'inverse, dans les points, j'allais dire, positifs, y compris pour les agences, le dernier défaut français date de la Révolution, c'est la banqueroute dite des deux tiers. Et donc, depuis les années de la Révolution française, donc depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a eu des dévaluations, mais il n'y a pas eu de défaut depuis.
Oui, mais on est loin de faire... Enfin, quand même, Nicolas Barrès, la France est loin de faire défaut.
La France n'est pas en situation de faire défaut. Non. Elle est en revanche en situation de connaître un choc financier violent du type de ceux qu'ont pu connaître le Royaume-Uni en 2022 ou l'Italie en 2011.
Oui. Vous pensez qu'on en est là ?
Oui.
Parce qu'après tout, certains, je vous dis encore une fois, certains disent qu'il n'y a pas vraiment de problème de finances publiques puisque tout le monde achète la dette française.
Il faut investir. Pour des raisons techniques, parce qu'on ne peut pas acheter de dette allemande puisque les Allemands se désendettent massivement, donc il n'y a pas de dette allemande. Et ensuite, si on veut acheter de la dette dite euro, il y a l'effet de taille et il y a la dette française. Ça, c'est le côté positif. Le côté plus inquiétant, c'est ce que j'ai dit, on est rentré dans la phase où cette dette n'est plus soutenable, et surtout, on oublie qu'il va y avoir une énorme concurrence pour le capital dans les années qui viennent. C'est-à-dire que
Il faut un électrochoc financier.
L'épargne à long terme est limitée, et tout le monde va se battre pour financer ce que j'ai rappelé, le vieillissement, la réindustrialisation, le numérique, la révolution, la transition climatique, le réarmement. Tout ça, à chaque fois, on parle de
centaines de milliards.
C'est pour ça qu'on a besoin d'investir. Ah oui, mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que l'argent qu'on a dépensé, on ne l'a pas mis dans l'investissement.
Rapidement, parce que j'ai encore deux questions très importantes. Une, plus, mais je sais, un peu idiote comme question, mais à votre avis, que ferait Raymond Aron, dont vous êtes le disciple, avec un grand D, donc comme libéral, s'il en a, que ferait Raymond Aron s'il était là aujourd'hui, avec nous ?
Écoutez, je crois que c'est toujours difficile de faire passer ou de faire parler des gens qui ont disparu. Raymond Aron a été le pédagogue de la dissuasion nucléaire au plan géopolitique, mais aussi des marchés financiers. Oui. Et donc, en 1981, il avait écrit un éditorial célèbre sur le cercle carré pour montrer comment la politique économique de la gauche ne pouvait que mener à une crise, et c'est ce qui est arrivé en 1983. Aujourd'hui, on a aussi une forme de cercle carré. Mais si vous voulez parler des grands anciens ou des libéraux illustres, on pourrait citer aussi Jacques Rueff, l'homme des réformes de 58, il disait « Soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs ». Et je pense que la première chose qu'on peut dire aujourd'hui à nos gouvernants, c'est de cesser de mentir. Parce qu'ils mentent sur les chiffres, ils mentent sur le constat, et donc c'est la base de commencer par parler du réel.
Un mot quand même de géopolitique, parce qu'évidemment on est tous suspendus à la réaction si elle a lieu, d'Israël vis-à-vis de l'Iran, où là on rentrerait dans un engrenage. On s'en souvient, vous avez écrit, vous avez participé au livre blanc sur la défense, vous avez écrit aussi pour l'Institut Montaigne. La géopolitique, on peut dire que c'est vraiment pour 2024, c'est l'heure de vérité.
Oui, le monde a basculé en 2022 et c'est vrai que on a vécu
avec la guerre en Ukraine,
avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et il faut reconnaître aujourd'hui ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est qu'on a vécu un nouvel entre-deux-guerres entre 1989 et 2022. Aujourd'hui, c'est un monde où la géopolitique a supplanté l'économie, les États ont repris le contrôle sur les marchés, la protection sur le libre-échange et la sécurité sur l'optimisation des chaînes de valeur. Et c'est vrai que dans ce monde, avec une mondialisation qui éclate en bloc, on s'aperçoit que la violence est en train d'échapper à tout contrôle.
Oui. Est-ce que nos démocraties sont en danger
Et nos démocraties sont clairement en danger parce que c'est la première fois depuis les années 30 qu'il y a trois choses. La crise intérieure avec djihadisme, populisme, les périls extérieurs avec les empires autoritaires, avec également cette montée de puissances comme la Corée du Nord qui sont des puissances déstabilisatrices, et puis la désintégration un peu de l'ordre mondial qu'on avait connu, et le fait que les institutions qui régulaient un peu la violence ont disparu. L'ONU n'a plus aucune autorité, les traités de désarmement ont été supprimés, et c'est vrai que l'Europe, parce qu'elle s'est construite comme ça, l'Europe s'est construite avec l'échec de la communauté européenne de défense en contournant le militaire et le stratégique par l'économie et par le droit. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut pouvoir répondre et que l'Europe a vraiment cru au doux commerce de Montesquieu et à l'idée que les intérêts l'emportaient sur les passions et qu'on pouvait acheter à la fois les autocrates et les oligarques en leur achetant le gaz et en leur livrant des automobiles. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même monde. Mais pour l'Europe, le changement de logiciel est considérable. Et par ailleurs, elle est en première ligne face à la Russie de Poutine et face au djihadisme, contrairement aux États-Unis. Et elle est sous pression du dumping chinois au plan industriel et puis de la réindustrialisation américaine avec l'IRA. Donc, ça fait de fait un... Il faut changer de logiciel dans un environnement qui est un environnement extrêmement, extrêmement dur. Et ce réarmement économique, industriel, militaire et politique de l'Europe est quelque chose qu'elle n'a pas du tout préparé. Et le dernier facteur qui nous ramène aux années 30, c'est que face à ces chocs, les démocraties, d'abord, sont des régimes pacifiques, donc qui ont du mal à se mettre... Et elles se désunissent, du coup. Mmh. La désunion, elle peut être intérieure. Ce qu'on voit avec les États-Unis, la quasi-guerre civile, avec la perspective d'un retour éventuel de Donald Trump. Mais en Europe aussi, le Brexit est a fortiori avec ce qui se passe, c'est vraiment un contresens historique aberrant.
Oui, ça m'a remarqué, ils en payent un peu les conséquences, quand même.
Oui, mais nous aussi.
Oui, mais nous aussi, mais pour d'autres raisons. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. On voit que, en tous les cas, je ne sais pas quel sera le titre de votre prochain livre, mais ça pourrait être encore La France qui tombe ou L'Europe qui tombe.
Oui, mais et le fait que, aussi, le prochain titre, c'est qu'il faut se remobiliser.
Remobilisons-nous. Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est de retour dans Good evening business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume,
Audrey
bonsoir
Tcherkov
à tous.
Avec nous, bien sûr, tout comme tous les soirs jusqu'à 20h en direct. Valentin Gris est avec nous. Valentin, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
On va parler du déficit dans un instant. Jackie Isabello est avec nous. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. Et puis Edwige Chevriant qui reste avec nous. Bonsoir Edwige. On va parler des déficits dans un instant. Alors un mot quand même, parce que la nouvelle est tombée tout à l'heure, c'est Publicis, c'est Maurice Lévy, ça fait toujours causer. Changement de structure chez Publicis, qui va passer en mode société anonyme à conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Arthur Sadoun devient PDG du fameux conseil d'administration. Et Maurice Lévy lâche la présidence du conseil de surveillance, il devient président d'honneur. Mais il est toujours là, parce que c'est Maurice Lévy, forcément.
À 82 ans, il prépare l'avenir.
Oui, surtout, c'est que j'ai envie de dire pour l'instant, heureusement qu'il est là, parce que Arthur Sandoun a fait un job absolument remarquable. Donc, c'est tout à fait logique qu'il prenne vraiment. Enfin, il avait déjà largement les rênes. Maurice Lévy, c'est un peu l'ombre du commandeur. Surtout, il est extrêmement proche d'Elisabeth Badinter, parce que c'est un historique de la maison. Or, il y a des enjeux quand même par rapport au capital de Publicis. On l'a même dit ici. On dit que certains pourraient tenter de racheter, notamment le voisin de l'autre côté de l'avenue Havas. Donc, il y a un besoin quand même de consolider l'actionnariat. Il y a une transition à faire, donc aux fils, aux enfants Badinter. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est Maurice Lévy, évidemment, qui gère tout ça. Arthur Sandoun, lui, c'est l'opérationnel. Il a réussi donc cette transformation vers le digital de Publicis d'une manière, comme je le disais, remarquable. Les résultats sont là, encore une fois. Maurice Lévy, il est encore indispensable pour gérer cette transition à un moment quand même assez clé pour la famille Badinter.
Oui, alors sachant qu'en plus, il est censé partir, ça fait c'est année après année où on annonce son départ et puis finalement il reste, mais c'est sûr que, c'est très, très symbolique. Maurice Lévy, c'est l'héritier du fondateur Marcel Bleustein-Blanchet. Il est arrivé en 1971 chez Publicis.
Directeur informatique.
Mais il part pas vraiment, exactement. Donc il a monté tous les échelons au fur et à mesure, et le fait qu'il reste, qu'il ne parte pas en tout cas pour le moment complètement, c'est aussi en effet pour contrer les offensives éventuelles.
Même gérer sans contrer forcément, parce que on sait qu'évidemment il y a des gens qui rôdent, surtout que maintenant Publicis est en très bonne santé. Mais il faut quand même qu'il essaye de faire que ce passage de témoin au sein de la famille Badinter se passe bien. En fait, lui, il rassure tout le monde.
Première capi du secteur en Europe, 25 milliards d'euros de capitalisation.
Puis on ne succède pas à Maurice Lévy.
Ben non.
Je crois que tout le monde sur la place le sait. Et lui, il le sait mieux que d'autres. C'est une figure tutélaire, il ne faut pas lui enlever ça. Comme l'a dit Edwige Chevrillon, c'est quelqu'un qui a su sentir les transformations successives qui sont intervenues dans l'univers de la communication. Et Dieu sait que l'étape qui a vu la numérisation s'imposer à l'ensemble des métiers, dont moi je viens, à déstabiliser l'entreprise. Et finalement, il a eu un deuxième coup de bol, c'est que, étant un spécialiste de l'informatique, la technologie l'a remis un peu en selle. Après, j'aurais tendance à dire, si on sait lire des statuts et si on connaît un peu le droit commercial, bon, président d'honneur, c'est un peu ce qu'on octroie dans certaines organisations. Une fois que quelqu'un.
Président de l'ombre,
c'est un contrat, mais c'est président de l'ombre. Dans la députation, devient député honoraire.
Ça veut dire en réalité, non, c'est qu'il sort complètement demain, de la partie opérationnelle.
Mais ça n'a aucun poids, je veux dire, statutaire, réglementaire.
Non, ça c'est certain.
C'est toujours bien d'avoir Maurice Lévy et de faire en sorte qu'il soit toujours dans la famille, parce qu'il ne quittera jamais le navire. Et c'est aussi un message comme quoi la structure capitalistique est toujours assurée, et que la confiance dans les années, elle s'instille pour les plus jeunes. Mais elle reste avec ceux qui peuvent toujours amener quelque chose.
Non, président de l'ombre, vous achetez pas, Edwige.
Non, le fait qu'il reste président, là, quand même, dans l'ombre, pas du tout. Je pense vraiment qu'Arthur Sandoun, autant ça a été le cas pendant une certaine période. En plus, avec Arthur Sandoun, qui a connu des ennuis de santé dont il a parlé, du reste très courageusement. Là, franchement, Arthur, il a vraiment réussi, il a démontré, quand même, avec force ses compétences par rapport. Donc, je pense qu'il a maintenant, il est totalement légitime à la tête de Publicis. En revanche, quand vous venez de le souligner, Jackie, je pense qu'effectivement, c'est sur la partie actionnariale que là, Maurice Lévy a toujours une légitimité.
Bon, et puis il a des activités à côté. Il a une holding qui va bientôt racheter Solocal, vous savez, l'ex-page jaune. Puis il a une plateforme qui s'appelle Your Art.
Et puis un point, j'ai vu Vivatech. J'ai fait partie des 10 personnes qui, au départ, avec les gens du Salon des Entrepreneurs, les Échos, quand tout ça, on a tous mis un peu d'intelligence. Et puis le concept a été défini, montré bien. Et puis un jour, il a fallu faire de cet événement quelque chose vraiment d'international.
Oui, oui.
Et là, Maurice Lévy est arrivé, il a sorti son carnet d'adresses, et en deux jours, des mastodontes américains
radical,
qui lui ont dit Maurice, c'est un peu comme ce documentaire sur Quincy Jones, si vous ne l'avez pas vu. Quincy Jones décroche son téléphone, il appelle l'ancien secrétaire d'État américain pour venir inaugurer un musée. Maurice Lévy, c'est pareil, il décroche son téléphone, il fait venir Elon Musk. C'est lui qui l'a interviewé.
Exactement, il y a deux ans.
Voilà. Donc c'est un relationnel qui est gigantesque à tous les niveaux.
Et il resterait d'ailleurs quand même en charge encore de certaines questions, notamment d'innovation, et développement.
Ah, mais il sera là et bien là, Maurice Lévy, voilà, qui prend un petit peu de champ, on va le dire comme ça, il a un petit peu de champ à 82 ans, mais qui reste bien sûr à bord du navire. À part ça.
Ah ben, à part ça, cette grande question, qui croit encore vraiment la France capable de ramener ses déficits sous la fameuse barre des 3% d'ici la fin du quinquennat? Ça va arriver vite, hein. Le gouvernement a présenté, en tout cas ce matin, au Conseil des ministres, sa nouvelle trajectoire, Guillaume.
Oui, qui ne fait pas l'unanimité. Bonsoir, Valentin Grille. Bonsoir, le problème, Guillaume, c'est que notamment, on a le très sérieux au Conseil des finances publiques. Il a dit aujourd'hui, lui, il ne croit pas du tout à ça, Valentin.
Mais non, on peut le dire, parce que l'éléphant dans la pièce, c'est les objectifs de déficit public, en fait. Le gouvernement veut passer de 5,5% en 2023 à 2,9% en 2027. Pierre Moscovici, le premier président du Haut Conseil, parle d'un effort budgétaire jamais vu, d'un effort incroyablement important. 27 milliards d'économies à faire dès l'année prochaine. Et pour lui, ce n'est pas compatible avec la croissance. Je vous propose qu'on l'écoute.
Compte tenu de ce qu'on nous a donné, soit on maintient les prévisions de croissance, et donc l'ambition de croissance, et à ce moment-là, on risque fort de ne pas atterrir sur 3%, soit on veut atterrir à tout prix sur 3%, et à ce moment-là, la croissance sera donc sans doute moindre, ce qui exigera des efforts en dépenses encore plus considérables que ceux qui sont faits.
Alors, le gouvernement est-il malhonnête? Pas forcément, c'est ce qui a été souligné. Par exemple, Pierre Moscovici a redit que les prévisions sont plus dures parce que l'État redistribue plus de TVA du fait de la compensation de la taxe d'habitation, on s'en souvient. Et donc, il s'appuie sur des impôts qui sont moins certains, moins prévisibles, comme l'impôt sur les sociétés, par exemple. Mais il s'interroge quand même, le président de la Cour des comptes, sur les recettes. Faut-il enlever plus, enlever mieux? Peut-être. Il a évoqué le manque d'efficacité de certaines taxes, comme les énergéticiens, par exemple. Elles sont arrivées trop tard, en pleine désinflation. Thomas Cazenave, de son côté, le ministre délégué aux comptes publics, a répondu. Il est d'ailleurs encore en train de se défendre actuellement devant la commission des finances, en affirmant les économies réalisées, en la proximité de ses prévisions avec celles de la Banque de France, de la Commission européenne par exemple, et puis en confirmant en fait sa stratégie sur les recettes. On ne lèvera pas de nouvel impôt de manière importante, en tout cas sans avoir eu l'aval, l'impulsion de la majorité au Parlement.
Merci beaucoup, Valentin. Il y met de moins en moins les formes, il est de plus en plus cash, je trouve, Pierre Moscovici, sur le sujet.
De moins en moins, enfin, l'a-t-il été?
Ah oui, il a toujours été quand même. Il a toujours été patelin quand il vous allume, Pierre Moscovici.
Enfin, je sens que les mots sont quand même un peu président de la Cour des comptes, qui a le beau rôle. Parce que son rôle maintenant, c'est de critiquer les chiffres qu'on lui présente.
Moi, je suis extrêmement choqué par ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous que pendant la crise Covid, on a quand même traîné des ministres de la Santé qui ont géré une crise, donc avec toute l'incertitude que constitue une crise, devant la Cour de justice de la République. Tous les économistes vous disent aujourd'hui, expliquer qu'on passe de 5,5% de déficit à 3 en 2027, c'est un mensonge. Oui, vous savez combien il faudra faire d'économies? 150 milliards. Pierre-Olivier Béfi, qui préside cette association dont je vous parle de temps en temps, l'Éco Avenir, avec plein de super économistes quadra, plein d'avenir, on fait ce calcul en disant 5,5 à 3, c'est 2,5 de PIB auquel il faut rajouter un point du service de la dette, plus les effets récessifs.
Enfin, des économies.
Sur la santé, où il y a eu des morts d'hommes avec le Covid, avec la situation des finances publiques. C'est vous n'êtes pas en train de mourir, je ne suis pas en train de mourir. Vous voyez, je veux dire,
oui, mais l'économie, Edwige, l'économie ça n'est peut pas mourir, ça fait énormément de morts. Et puis en tout cas, c'est le mensonge, moi.
Vous savez, c'est la phrase que citait tout à l'heure Nicolas Bavrez de Jacques Rueff, grand ministre des Finances, qui disait soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne mentez jamais. Je trouvais que c'était une merveilleuse
phrase. Oui, absolument.
À mon avis, ça va me faire ma soirée. Mais c'est. Voilà. Alors, ce qui est un mensonge, je pense que c'est presque un peu plus grave, ça de demander si c'est... Enfin, il y a d'abord de l'incompétence, peut-être, et puis après... Non, mais parce que tout d'un coup, de ne pas avoir vu ce dérapage de 20 milliards sur les remontées de l'immobilier, de l'impôt sur les sociétés, on peut quand même se demander qu'est-ce qui s'est passé à Bercy, non? Enfin,
je vous connais comme moi la qualité des fonctionnaires
ces
institutions comme la direction du Trésor. C'est pas possible.
Le mensonge, à mon avis, il arrive plutôt sur maintenant. C'est de vous dire qu'on arrivera à 2,9% en dessous des 3% en 2027. Là, je pense que c'est... frôle le mensonge. On n'a pas envie, parce qu'il faut quelque part l'y croire, parce que sinon il faut un peu d'ambition pour la France. Je reprends l'expression de Bruno Le Maire tout à l'heure sur la croissance, les 1% de croissance en 2024. Mais là, je pense que quand même, il y a une volonté de ne pas voir, et ça de la part du gouvernement, du président de la République.
Alors attendez, parce que c'est différent. Est-ce que c'est une volonté de ne pas voir, ou est-ce que c'est une volonté de ne pas partager la réalité des chiffres? Parce que en réalité, on sait très bien que tant sur le budget 2024 que sur les projections de déficit, au dernier trimestre 2023, le gouvernement avait toutes les données. On savait que les recettes fiscales, notamment, allaient largement baisser. Non, c'est un grand écart quand, en effet, aucun économiste n'explique. Et donc, la question, c'est pourquoi avoir présenté un budget aussi insincère?
Parce qu'ils n'ont pas vu, moi je pense que c'est vrai, ils n'ont pas vu l'impact de la baisse des transactions dans l'immobilier, l'impact que ça pouvait avoir.
Non mais nous-mêmes sur ce plateau, Edwige, ensemble, on en parle depuis 8 mois.
Oui, enfin bon, parce que c'est aussi facile.
Tous les notaires qui représentent cette institution ont très bien compris qu'en faisant une règle de 3, sans faire de mathématiques financières dont ils sont les spécialistes, sur la baisse des 3 de mutation, quand on allait la maximiser, ça allait faire des catastrophes.
Mais je pense qu'il n'y avait pas... Imaginez que c'était de cette ampleur. Idem sur le ralentissement.
Oui, d'accord, mais alors
le ralentissement de l'activité économique des entreprises.
Oui, mais enfin, ils ont toujours été au-dessus du consensus des économistes sur leur prévision, sur leur projection.
Ils ont eu raison, non? C'est en 2023.
2023, ça a marché.
Oui, ça a marché.
Dites-moi, il est allé jusqu'à invoquer l'ancien régime, Nicolas Bavrez. Oui. Il dit, on n'a pas vu ça depuis l'ancien régime. Oui, on sait ce qui s'en est passé suivi dans la foulée.
C'est comment ça s'est terminé?
Oui, voilà, c'est ça exactement.
C'est ça la même chose inquiétant, justement. Ça continue. Non, mais surtout, c'est que, là, je vous rejoins. C'est qu'on a un besoin, je pense qu'on n'a jamais eu, enfin si, évidemment au lendemain de la guerre, mais c'est pour ça que j'y pense, on a des besoins d'investissement absolument
colossaux.
Qui n'ont pas été faits, c'est ce que disait Nicolas Bavrez.
Dans la recherche, que ça soit dans les logements, que ça soit dans la santé, que ça soit dans la justice, que ça soit dans l'école.
Dans la formation, et on fait précisément l'inverse. On est en train de renier sur toutes ces dépenses, sur toutes les dépenses d'avenir, parce que les enfants malheureusement ne votent pas.
Après, ce qu'il faut intégrer aussi, on parle souvent du brouillard de la guerre chez les militaires, mais il y a une espèce de brouillard de la campagne, c'est-à-dire que l'interprétation des chiffres, la manière dont on dit si on ment, si on ment pas, si on le savait, si on le savait pas, eh bien il faut l'interpréter à l'aune d'une campagne.
Ça s'appelle un pari. Ça s'appelle un pari.
Bruno Le Maire adopte des attitudes sur ce sujet de la rigueur fiscale. Ce sont pas forcément toujours les attitudes qu'il a eues. Pierre Moscovici est assez proche de François Hollande. On sait que François Hollande est en train de monter dans tous les baromètres et certains disent qu'il pourrait y croire. Donc la dimension politique et politicienne. Elle est en train de faire quelque chose qu'on déteste, nous, en économie. C'est qu'elle est en train d'instrumentaliser l'économie. Et on le voit bien avec ces sujets-là.
Oui, absolument. Et ce qui pose aussi question, quelque part, c'est que tous les efforts menés en faveur de la politique de l'offre depuis globalement une dizaine d'années ne se traduisent pas du tout dans les chiffres de la croissance, parce qu'on a quand même créé 1 400 000 emplois.
Non, voilà, il y a quand même la création d'emplois, même si aujourd'hui ça se tasse.
Mais ça se traduit pas dans la croissance.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un choc énergétique là aussi sans précédent. Hein. Donc tous les coûts ont augmenté d'une manière spectaculaire. Donc, c'est aussi pour ça. S'il n'y avait pas eu le choc énergétique, je pense que la croissance elle serait bien supérieure.
Moi, je suis d'accord avec Edwige. Si jamais il n'y avait pas eu cette politique de l'offre, aujourd'hui, avec les crises qu'on a connues, on aura un taux de chômage à 10%.
Ouais, alors pour le coup, ça marche. Ouais.
Le taux de chômage, il n'est pas à 10%.
Non, alors, non, mais la courbe était en train de...
Pierre Moscovici donc était auditionné tout à l'heure à l'Assemblée. Et dans la foulée, c'est Thomas Cazenave, le ministre des Comptes Publics, qui a répondu en quelque sorte à Pierre Moscovici. Il dit, si 1% de croissance cette année, on y tient toujours. Écoutez, c'était il y a quelques minutes.
Je le redis, notre prévision à 1%, elle est très proche pour 2024. Elle est très proche de la Commission européenne, 0,9%. La Banque de France est à 0,8, mais le gouverneur encore disait, vous savez, 0,2, c'est la marge d'erreur.
On dirait ça.
Ça, c'est ce qui s'appelle l'épaisseur du trait.
Non, ça s'appelle les sondages. Mais sauf que le problème, c'est que les sondeurs, ils ont 1000 personnes à interroger. Un budget, ça ne s'évalue pas sur ça. Et on a quand même beaucoup plus de critères.
Là, on sent un petit peu à court, on le sent à court de munitions.
C'est de la rhétorique.
Court d'arguments.
Mais la rhétorique, ça sert en politique. Oui, ça arrive.
Oui, et puis, par ailleurs, parce qu'il cite, il se réfère aux projections de la Banque de France, mais on peut citer, aussi les projections de l'OFCE, de l'OCDE, qui, elles, sont encore en dessous. Donc, on ne va plus être à 0,2, là.
Bah, il devrait écouter un peu plus, quand même, la Banque de France.
Et le FMI nous a mis à 0,7 hier pour cette année. Voilà. C'est une bataille de chiffres. On est sur des pouillèmes, fondamentalement. Bien, alors, pendant ce temps, figurez-vous...
Des pouillèmes qui comptent.
C'est des pouillèmes qui comptent en milliards, évidemment. Ouais. Pendant ce temps, donc, Bruno Le Maire est à Washington, où se tiennent, vous savez, en ce moment, les réunions de printemps du FMI. Il y rencontre ses homologues pour parler fiscalité internationale, notamment, vous savez, c'est sa grande idée, une taxation minimale des grandes fortunes, Audrey. Hein.
C'est ça, c'est la grande idée du ministre français. Donc, rendre la fiscalité plus juste et plus efficace, faire en sorte que les plus fortunés n'échappent pas à l'impôt par des montages fiscaux que l'on connaît et qui sont légaux, mais inacceptables moralement, dit-il. On l'écoute et on en parle tout de suite.
Nous avons lancé une initiative sur la fiscalité minimale des personnes les plus fortunées, qui va reposer sur de la transparence, d'abord qu'on sache exactement quel est l'état des lieux. En deuxième lieu, sur un échange d'informations. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange d'informations entre les systèmes fiscaux des différentes nations de la planète sur la réalité de cette taxation. Et ensuite, éviter les mauvaises pratiques en la matière.
Et là, on a envie de dire bon courage, parce que quand vous voyez le temps que ça a pris pour échafauder quelque chose au niveau de l'OCDE sur une taxation minimale des multinationales, 7 ans, 8 ans, et encore, ce n'est pas encore effectif partout, vous vous dites, mais combien de temps?
Oui, mais on a réussi à le faire quand même.
Sur ce que disait Jackie tout à l'heure, quand même, c'est que, rappelez-moi, hier, on parlait de quoi, hier? On parlait des 36 millions de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, bon, qui a beaucoup secoué. On en a parlé pendant très très longtemps. Bon, il arrive avec cette taxation sur les milliardaires, c'est aussi un peu une réponse à la situation en France. J'ai envie de dire, c'est drôle, dès qu'il y a un Français, on parle de taxes, et dès qu'il y a un Européen, on parle de règlement. C'est drôle, alors que c'est quelque chose qui n'arrive jamais avec un Américain. Mais c'est bon, ça c'était plutôt anecdotique. Taxation sur les milliardaires, oui, quoi, comment? Je vois pas comment aux États-Unis ça peut se passer.
Et propositions de Gabriel Zucman en France, notamment aussi, qui
fait. Bah oui, qui était américain, qui défendait justement.
Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, on sent en tout cas qu'il y a aussi une acceptation de plus en plus de pays sur le sujet, et les États-Unis, Joe Biden notamment, qui est d'accord aussi, lui, sur cet impôt. Ça, c'est quand même une première aux États-Unis.
C'est intéressant ce que vous dites. Joe Biden est d'accord. Ben, Joe Biden, il est un petit peu en campagne. Je me souviens, j'avais un jour accompagné quelqu'un sur le plateau de Guy Chevrillon il y a pas mal d'années. Et Denis Père, l'immense entrepreneur, était là. Il commençait à installer ses idées avant de construire son parti. Et puis, en sortant du plateau, je le chope et je lui dis, Monsieur Père, je pense que vous faites une erreur. Je lui dis, les milliardaires, c'est combien de divisions? Je lui dis, dans votre entreprise, vous êtes une voix en démocratie, vos salariés, c'est 99,9%. Donc, taper sur les milliardaires, quand on commence à construire un peu son image et qu'on doit thésauriser sur 7 ans de ministre de l'économie, bon voilà, ça ne mange pas trop de pain.
C'est le même ministre qui ne veut pas toucher au super profit, mais qui veut taxer les milliardaires.
Oui, c'est
vous,
vrai.
Vous parliez de cette taxe à 15%. J'ai ressorti l'étude du CAE quand je bossais avec eux à l'époque du regretté Philippe Martin sur les lendemains du G7, sur cette fameuse taxation. Regardez, ça fait quoi?
Oui. Non, mais alors attendez, Jackie, puisque vous parliez du nombre de divisions et sur l'impact possible et potentiel de cette taxe, Zucman, lui, dit que sur les 3000 milliardaires recensés sur la planète, cette taxe de 2% pourrait rapporter 250 milliards d'euros par an.
Les 15% de taxe, c'était 6 milliards pour la France. Ouais. 6 milliards pour la France, si on arrivait à taxer selon ce taux unique de 15%. Ça ferait énorme. Mais écoutez,
c'est un one shot. Si vous appliquez ce que vous faites sur une fois, c'est un one shot.
Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, pour financer une campagne, vous avez ce qu'on appelle les PAC et les super PAC. Oui. C'est-à-dire que vous donnez autant d'argent que vous voulez, ce qui est interdit en France. Donc vous pensez que les gens qui vont faire les poches des milliardaires pour devenir président ou président des États-Unis, ils arriveraient à dire, en plus de t'avoir pris beaucoup d'argent pour ma campagne, demain je vais t'assassiner d'un point de vue fiscal? C'est-à-dire la cohérence
de
la logique de l'argument.
Oui, mais il y a deux choses.
Ne marchera jamais aux États-Unis.
Oui, mais dans le cadre des campagnes électorales, il y a le sujet du financement, mais il y a aussi les votes. Et on voit bien que le grand public est de plus en plus enclin à ce que les gouvernements mettent en place ce genre de taxation.
Les partis comme les campagnes, c'est quoi, 450 millions de dollars, une campagne américaine,
plus que ça,
c'est encore beaucoup plus. Donc, eux, ils parient sur des valeurs sûres. Donc, on se retrouve avec une élection avec deux candidats qui ont 80 ans ou presque, quoi. Donc, c'est aussi l'autre face de cette.
Mais enfin, en tout cas, tous les sondages montrent que l'acceptation du grand public sur le sujet, c'est un soutien à 100%, parce que le grand public pense que ça aiderait notamment à financer les sujets de transition climatique.
Après, qui est de négocier la pauvreté. Audrey, vous le savez, c'est que quand ça vient de Joe Biden, ces sujets-là, je me demande toujours, mais de quel État est élu Joe Biden? Joe Biden est élu du Delaware. Et d'un coup, on se dit, tiens, c'est étonnant, est-ce qu'un élu
du Delaware? C'est quand même
le paradis fiscal
où sont toutes les grandes banques d'affaires.
En tout cas, Bruno Le Maire est parti tester ses homologues du G7 et du G20 du côté de
Washington. Juste ce que je crois, c'est qu'on pourrait faire un one-shot. Ça pourrait marcher. C'est-à-dire, situation dramatique en 2024, il y a de la guerre, il y a tout ça. Allez, on veut pique 2%, ça va. Ça ne ferait pas fuir les milliardaires.
Ce serait un bon compromis.
Projet de Glucksmann, en tout cas pour le moment, c'est une taxe annuelle.
Hein. Oui,
mais qui se répète.
Oui, absolument.
Une taxe, ça ne marchera jamais. Je vous avais déjà donné la solution une fois. Benaouda Abdedaïm a présenté une étude un jour qui a été faite dans les pays du nord de l'Europe, en Finlande ou je ne sais pas trop où. Et il avait dit, plus on donne d'honneur aux gens qui sont des grands patrons et qui sont très très riches, donc des médailles, des reconnaissances, des missions, des sociétés, plus on s'aperçoit que la politique sociale de leur groupe, eh bien, s'améliore. Les gens qui sont
quand
très très riches et qui ont créé beaucoup de choses, faut plus leur dire je t'aime que de leur dire, comme certains titres de presse le titraient à un moment, casse-toi quoi. C'est pas comme ça que
après,
ça fonctionne.
C'est une pétition des milliardaires qui voulaient être taxés, voilà, qui avait dit bah voilà, ils sortent du bois.
Dont Maurice Lévy.
Se voir imposer. Ah bon, il était signataire.
Voilà, il est un des aspirateurs de cette campagne, de cette tribune.
Il faut qu'il vienne nous raconter ça.
Allez, Maurice Lévy dans la grande interview. C'est pour bientôt.
Bien, 30 secondes, je sais pas. Alors nous sommes à 100 jours du début des Jeux Olympiques. En un mot, une phrase. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous le sentez?
Vous avez mis où votre tenue?
100 jours. Ah, on n'a pas la tenue.
Si, votre blazer, Berluti là. Avec
Elle est belle, hein? Ouais. C'est tenue, cela dit. Hein.
Ouais, c'est joli.
Non, 100 jours, vous êtes comment là d'un mot, 10 secondes.
28 médailles, troisième pays le plus rétribué. Moi, ça me va bien, je signe tout de suite. En tant que Parisien, je vais faire comme toujours, je vais râler un peu, c'est normal, on est français, on n'est pas en Russie, on a le droit d'être content de les recevoir, mais en même temps de critiquer tout ça.
Et vous allez mettre les voiles.
C'est l'ambivalence qui fait la joie de la démocratie.
Non, mais il y a des raisons de s'enthousiasmer quand
moi,
même.
Moi, j'espère quand même que ça va être de très beaux jeux, parce que c'est malgré tout, malgré les Français, malgré nous, en fait, c'est quand même, ça arrive tous les 100 ans. Je reprends l'expression d'Emmanuel Macron l'autre jour sur BFM TV, sur RMC. Donc, il faut une certaine fierté de la France.
Et puis, Edwige, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, ce seront des Jeux paritaires. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, autant d'athlètes masculins que féminins.
Absolument.
Ça sera comme ça dans les médailles.
C'est dans 100
jours. Du côté des femmes.
Exactement, à suivre.
C'est dans 100 jours. Bien, 18h56, c'est terminé pour cette première partie. Jackie, merci. Vous revenez dans un quart d'heure pour votre pénitence. C'est jusqu'à 20h avec nous en plateau. Edwige, à demain. 18h10.
Demain, une nouvelle licorne sera avec nous, qui s'introduit en bourse. Et puis, il y aura aussi, quand même, je vais demander de venir François Eckhall. François Eckhall, Fipeco, qui devient la référence, la bête noire de Bercy.
Celui qui sait faire de la pédagogie sur ces questions.
Celui qui sait faire des comptes, surtout.
François Eckhall et les licornes, demain, 18h10 en direct, 18h57. Bah, nous, on revient dans un instant, on est là jusqu'à 20h, bien sûr.
Et oui, en direct jusqu'à 20h pour décrypter l'écho pour vous. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.